Vous écoutez RMC. RMC, Estelle Midi.
Le zapping RMC.
Et on démarre avec les GG ce matin sur RMC. L'affaire Patrick Bruel, tout le monde savait, mais personne n'a parlé. Est-ce scandaleux? Au moins 10 plaintes ont été déposées contre le chanteur. Des chanteuses commencent à dénoncer son comportement. Et pour Laura Varton-Martinez, la sophrologue des GG, les artistes qui étaient au courant des agissements de Patrick Bruel auraient dû en parler avant.
Je voudrais m'adresser à toutes les personnalités publiques qui, là, nous disent avec sans aucune honte, mais on savait, c'était une notoriété publique. Là, moi, depuis que l'affaire sort, je rencontre des gens dans les médias, je rencontre des gens dans les couloirs, et on discute, et donc moi, je m'offusque, et on me dit, mais tout le monde savait.
Mais tout le monde savait quoi?
Bah, tout le monde savait que c'était un queutard, tout le monde savait que...
Ça, c'est pas un délit.
Tout le monde savait qu'il avait des tendances à vouloir avoir une domination certaine sur les femmes.
Et elle a raison de dire qu'on a beaucoup de « on savait ».
Voilà.
Lio et d'autres. Donc tous ces gens qui savaient, qu'ont-ils fait?
Oui, on peut savoir que quelqu'un est un queutard, comme dit Laura Varton-Martinez, mais un queutard, c'est pas un violeur. Donc en fait, voilà, ça, vous dites, Élise, comme Laura, bah, quand on sait qu'un homme est un peu, à l'époque, parce que c'est plus les mêmes mots aujourd'hui, mais on va dire lourd ou très dragueur, il faut le signaler.
Ben, moi, je pense que, là, on parle de Patrick Bruel, mais je veux dire, à ce jour, si demain il y a un MeToo qui sort sur un autre artiste, tout le monde va dire je savais aussi. Il y en a plein des histoires qui traînent,
ces
bruits de couloir. Ce que je veux dire, c'est que en fait, pour moi, je sais pas si on peut publiquement prendre la parole pour une autre victime. C'est-à-dire, moi, je me suis déjà retrouvée dans un cas où j'ai vu des violences conjugales. Je les ai dénoncées publiquement et en fait, la victime m'a dit merci, mais c'est très violent pour moi parce que je suis pas prête à en parler. Et j'ai appris ça m'est arrivé il y a 10 ans. Et en fait, en appelant le 3919, même pour dénoncer ces violences conjugales, ce qu'on m'a dit au 3919, c'est il faut que ce soit la victime. Oui. C'est parfois plus violent pour la victime de le faire sans son accord, même si ça va la libérer quelque part. En fait, c'est un sujet qui est hyper épineux. Mais c'est vrai que tant que Flavie Flamand n'est pas prête à le dire,
mais oui.
Il faut lui laisser le temps. La parole des victimes est plus importante que tout. Donc même si tout le monde est au courant, on peut décider en interne, en sachant de ne plus le mettre en avant. C'est-à-dire en tant que journaliste au courant, imaginons, on peut dire bah moi je veux pas l'inviter parce que j'ai entendu des trucs qui me plaisent pas.
On peut le faire.
Collectivement et à notre discrétion, on peut décider de dire
exactement.
Lui, c'est pas bien ce qu'il a fait et je le sais.
Un mot d'ordre,
je ne veux pas.
Entre femmes, on se prévient. Oui. Attention, un tel il est lourd.
Entre femmes, on va dire.
Oui, mais tu dis pas un tel est un violeur, tu dis attends, fais gaffe, celui-là c'est un gros lourd. Bon.
Moi j'ai déjà dit attention, c'est un violeur parce que j'avais entendu des histoires.
Mais d'accord.
Je vais pas aller publiquement à la place de la victime porter une parole parce que je pense que ça peut.
Si je sais que quelqu'un était un violeur, je pense que je dirais quelque chose.
Non, mais je dirais voir la victime en lui disant « Porte plainte, on sera tous avec toi. Et je te soutiendrai, et je te crois, et ça va aller. » Mais moi...
Parce que le viol, c'est un crime. C'est notre devoir de dénoncer un viol. Mais encore une fois, là, quand on dit...
C'est notre devoir de dénoncer un viol à la justice.
Oui, mais
dans
quand
les
on
médias,
dit tout le monde savait, mais en fait, on savait rien. Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est que, encore une fois...
Moi, ça faisait longtemps que j'entendais des trucs quand même.
Mais les mots... Oui, mais les mots ont un sens, encore une fois. Jacques Le Gros...
C'est compliqué parce que on parle de viol, d'agression sexuelle, on pourrait parler plus globalement de harcèlement. Avant d'en parler, il faut déjà rassembler beaucoup de courage. C'est pas facile, comme tu le dis, hein, c'est pas facile du tout d'en parler. Ça paraît évident qu'on, vu de l'extérieur, mais quand on est la personne concernée, il faut rassembler quand même beaucoup de courage. Donc il faut un peu de temps. Et puis après, c'est une machine qui s'enclenche et qui décide d'autres personnes concernées, présumées à avoir été violées, etc. Parce qu'il faut faire attention, hein. Rien n'est jugé pour le moment, un peu de prudence. Et qui vont suivre parce que elles vont se dire, elle l'a fait, donc il faut que je le fasse. Mais tout ça est facile, c'est facile d'en parler, mais le vivre et le faire... c'est compliqué, comme pour tous les lanceurs et lanceuses d'alerte. Il faut un peu de temps avant de se dire allez, j'y vais.
Mais quand on entend des rumeurs, voilà, sur les uns, sur les autres,
des rumeurs.
Voilà, en fait, ce que dit Laura Varton-Martinez dans les GG, c'est grosso modo, quand tu entends une rumeur, tu dois aller en parler en disant attention, j'ai entendu que etc. ou alors au contraire, parce que ou au contraire, bah se taire et puis après dire ah bah c'est vrai que peut-être qu'on savait en fait.
Bah, en fait, je comprends ce que veut dire Laura quand elle parle de ceux qui aujourd'hui se mettent en avant dans les médias,
ouais.
en disant tout le monde savait, on savait, etc. Ça, j'aime pas trop. Après, il y a un truc qui s'appelle la diffamation. C'est-à-dire que tu ne peux pas accuser comme ça quelqu'un sans preuve. Voilà. Après, les conseils qui se donnent. Alors moi, je connais pas bien le milieu du cinéma, mais je connais un peu le milieu de la littérature. Les attachés de presse sont en général des femmes. Et moi, des copines d'attachés de presse m'ont dit on sait que tel et tel auteur, faut jamais se retrouver dans un ascenseur avec lui.
Ben c'est un problème, ça, quand même.
Ah mais c'est un vrai problème. Et il y a des trucs.
Alors, qu'est-ce qu'on fait? On laisse continuer. Et pas de chance pour la nana qui, elle, se retrouvera seule dans l'ascenseur.
Il faut se donner des trucs. Moi, des copines, naturellement, on dit un tel, on sait qu'il faut faire attention, quoi. Et ça se transmet entre maisons d'édition, entre professionnels.
D'accord.
Mais comme a priori, certaines personnes qui parlent aujourd'hui.
Et madame tout le monde, qui n'est pas écrivain et qui n'a pas la chance d'être informée. Donc elle, en fait, elle risque de se faire violer, harceler, agresser parce que.
Alors, je parle pas de viol, je dis que
personne n'a parlé.
Mec limite, quoi. On sait que.
Enfin, quand tu commences à dire mec limite, c'est qu'il y a un problème.
Ouais. Mais je suis d'accord avec toi, mais à quel moment une attachée de presse va dire j'ai entendu dire de tels trucs, je vais pas, enfin c'est compliqué.
Oui, mais ça veut dire qu'en fait on ne protège pas les femmes.
Mais non, mais Estelle, je suis d'accord avec toi, c'est un
Estelle,
vrai problème.
C'est pour ça que collectivement nous devons encourager les femmes à parler et à saisir la justice et à porter plainte, parce que si Flavie Flament a mis autant de temps à porter plainte, c'est aussi qu'elle s'est dit à quoi bon. En fait, je vais porter plainte, on va me traiter de menteuse. Bah d'ailleurs, c'est ce qui arrive aujourd'hui. Hein.
Ah bah oui, c'est,
on va
me
traiter
c'est
de
ignoble,
menteuse.
Hein. C'est
alors
ignoble,
que elle a attendu 30 ans, mais si elle a attendu 30 ans, c'est que ça a été une réflexion peut-être quotidienne, qu'elle a pensé tous les jours. Elle s'est dit mais comment je peux faire? Qu'est-ce que je vais faire?
En fait, elle a eu un flash. Elle n'était pas très sûre. C'est ce qu'elle dit. Elle dit, elle s'est réveillée dans ce lit et tout. Et c'est quand lui lui fait une petite réflexion à l'oreille, elle se dit mais c'est pas vrai. Et donc tout d'un coup elle prend conscience en fait de ce qu'elle a vécu, et ça aide énormément de femmes aujourd'hui à
confiance.
C'est-à-dire que face à des trucs très graves qui sont arrivés dans l'enfance ou la jeunesse, parfois pour survivre, la mémoire enferme, congèle cela. Et ça peut revenir des années plus tard.
Et c'est pour ça qu'il y a des femmes qui portent plainte plus tard.
Voilà. Et c'est pourquoi la question de la prescription est
pour les mineurs,
majeure aujourd'hui.
Ouais. Mais évidemment, et il faut aussi que les mères des jeunes gamines très jolies qui se lancent dans le mannequinat soient un peu vigilantes.
Bah, et les pères aussi. Hein. C'est pas que les gamines très jolies, c'est les gamines tout court en fait. Enfin, c'est
ce monde.
Et les pères aussi, mon Jaco.
Les
pères aussi doivent être vigilants, et puis les violeurs doivent ne pas violer aussi.
Commençons par ça. Éduquons mieux.
C'est pas à nous de faire attention, c'est à vous de ranger vos gags. Hein. Désolé.
Je dis pas ça à Jacques qui.
Mais c'est à vous les hommes de façon empirique.
Tu n'as rien demandé à personne. Le pauvre, il est en train de prendre pour tout le monde.
Frappez Jacques. Parfaitement rangé, Jacques.
Les GG ce matin sur RMC. 710 millions d'euros d'aide carburant. L'État en fait-il assez alors que les prix à la pompe se maintiennent autour de 2 euros? Le gouvernement annonce une amplification des aides pour les grands rouleurs, les agriculteurs, les aides à domicile ou encore le secteur du BTP. Et pour Abel Boyer, l'éducateur des GG, il faut baisser les taxes sur les carburants.
Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas faire confiance aux Français? En fait, c'est là, philosophiquement, le problème. Ils ne nous font pas confiance pour consommer. Moi, je le répète, si demain mon essence coûte 1,60€ ou 1,70€, aujourd'hui, je le paye 2,30€. La différence, je vais l'injecter dans l'économie française. On le répète tout le temps. Mais on veut consommer. On veut kiffer la vie. On veut pouvoir aller au restaurant.
Mais il a raison.
Mais oui,
il a mille fois raison.
Mais le Français lambda, il veut quoi? Il veut son logement. Il veut quoi? Il veut, une fois qu'il a payé toutes ses charges, il veut aller au resto, il veut aller au cinéma. On veut être nous-mêmes les acteurs de l'économie française. Mais ils veulent pas. Après, ils nous disent, oh, arrêtez de nous considérer comme un État nounou, mais ils ont un intérêt à nous maintenir comme ça.
Est-ce que vous êtes d'accord avec Abel Boyi, Jacques Legros, est-ce qu'il faut baisser les taxes ou finalement, c'est bien ce qu'a fait le gouvernement hier?
Baisser les taxes, tout le monde sait que c'est pas la solution.
Non, ça n'a pas marché en Italie.
Bah oui. Tout le monde le sait. Alors, trouvons autre chose. Moi, je suis pas au gouvernement, hein. Donc des solutions.
Mais vous trouvez ça plutôt équitable ce qui s'est passé hier, 710 millions d'euros de
ça veut rien dire
d'aide,
pour moi.
En fait,
j'en sais rien. Ça dépend à qui c'est distribué, combien, comment, quand, pour combien de temps, à quoi ça correspond par rapport à un professionnel qui dépense autant par semaine, par jour. J'en sais rien de carburant et tout. Je n'en sais rien.
D'accord.
Je n'en sais rien du tout.
Ok. Mais c'est vrai qu'on nage un peu dans le flou, on va dire, Fred Hermel.
Oui, et j'ai de plus en plus ce sentiment que les gens n'attendent plus grand-chose de l'État, en fait.
Bah, ils ont raison.
Et parce que, vraiment, enfin, il y a 20 ans, ça aurait été plus... Mais là, aujourd'hui, ils disent, de toute façon... L'État plus de sous, donc.
Oui, mais attention.
Les gens.
Sébastien Lecornu.
Dans ce cas, ils font rien faire.
Non, mais il fait un petit peu avec ce qu'il a, ou plutôt avec ce qu'il a pas.
Oui, mais donc, sa stratégie, c'est, dit-il, de parfaire les conneries de ses prédécesseurs.
Oui, bien sûr.
C'est-à-dire que, en effet, il pourra annoncer et dire, allez, quoi qu'il en coûte,
il était au gouvernement. Hein.
Et puis, dans deux ans, on dirait, ah bon, on est passé de 3 000 à 5 000 milliards de dettes. Mais comment ça a pu se passer? Et on serait les premiers à dire, ah là là, c'est pas bien. Qui aujourd'hui dit merci à Bruno Le Maire?
Personne.
Alors que Bruno Le Maire, il a fait exactement ça, des boucliers tarifaires sur l'énergie, etc.
Oui, et aujourd'hui, il dit on m'a forcé. Donc,
lui-même n'assume plus aujourd'hui.
Mais
donc, Sébastien Lecornu, s'il baissait aujourd'hui les taxes de 50 centimes, on applaudirait pendant deux jours. Mais dans deux ans, on dirait Sébastien Lecornu a ruiné la France.
Ouais,
oh là là, c'est à cause de lui, etc. Mais
il fait ce qu'il peut.
Il pense à l'avenir de la France, et peut-être un peu au sien aussi.
Oui, en l'occurrence, personne n'est content. C'est-à-dire que même ceux qui bénéficient des aides ne sont pas contents. Ceux qui n'ont pas d'aide, ils ne sont pas contents parce qu'ils n'ont pas d'aide. Et donc en fait, ça ne satisfait personne. Voilà, c'est demi-mesure.
Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un Premier ministre aussi longtemps.
Oui, c'est vrai. Vous avez raison. Oui, voilà, et il risque de tenir encore,
quelques jours.
Ah bah non, quelques mois. Il va venir sur la présidentielle. Oui.
On va reparler du budget, puis là, ce sera une autre paire de manches.
Apolline Matin, ce matin sur AMC, faut-il diffuser le film L'Abandon dans les collèges et les lycées? On en a déjà beaucoup parlé dans Estelle Midi, mais depuis quelques jours, des voix s'élèvent pour que ce film sur les derniers jours de Samuel Paty soit diffusé dans les salles de classe. Le ministre de l'Éducation nationale est quant à lui un peu plus mesuré. Écoutez, Édouard Geffray, il était l'invité d'Apolline de Malherbe ce matin.
Moi, je pense que le film L'Abandon, d'abord, je l'ai vu. Et je pense que c'est un film qui est objectivement d'intérêt public pour les Français. Y compris parce que je trouve qu'il est en fait dans un ton assez juste. Il relate les faits de manière très linéaire, très à plat. Il pointe pas tel ou tel. Il relate les faits. Je suis pas partisan de l'obligation. C'est-à-dire que je crois pas qu'il faille obliger les professeurs à aller voir ni les élèves. Moi, j'ai croisé des professeurs qui avaient envie de le voir, d'autres qui m'ont dit je serais pas capable de le voir. Je vais pas forcer qui que ce soit à y aller. Mais que collectivement on se dise, compte tenu une fois encore de l'impact que ça a eu collectif dans notre société. Que c'est utile d'y aller, ça je crois que oui, effectivement.
Alors, faut-il diffuser le film L'Abandon dans les collèges et les lycées? C'est un peu le débat de la semaine, Fred Hermel.
Oui, alors bien entendu, je ne l'ai pas encore vu, mais j'allais le voir, et évidemment. Oui. J'ai trouvé absolument admirable notre ami Benjamin Amar l'autre jour.
Oui, sur le plateau de l'Estelle Midi.
Il était, mais...
Qui parlait en tant que prof d'histoire géo.
Voilà, et que lui, il allait faire, quoi.
Exactement.
Voilà, et qu'il allait l'expliquer, et que moi, je l'ai trouvé d'une... C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, mais je l'aime encore plus après l'avoir vu, parce que il était très ému, il était très très convaincant, très sûr de lui. C'est un hussard de la République, lui. Hein. C'est un vrai prof, hein, comme on les aime. Donc oui, à un moment, on pourrait parler de liberté pédagogique, mais à un moment, il y a des programmes. Il y a des programmes qui sont obligatoires. Tout n'est pas la liberté dans l'éducation. Moi, je pense que oui, il faudrait obliger à essayer des projections dans les collèges, quoi. Voilà, c'est tout.
Oui. Alors, sauf que moi, j'ai juste un petit peu. Moi, je suis totalement pour et je suis sortie de ce film totalement dévastée. Là, vous êtes quatre autour de moi, autour de la table. Il y en a pas un qui a vu le film. Et quand on en a parlé à la poche, je vous ai dit, vous allez aller le voir. Et tous m'ont dit, non, j'ai peur d'être trop plombé, j'ai peur de machin.
Ah non, moi, donc, non, en fait,
non,
tu
n'as pas dit ça. Oui, mais
non, mais moi, je l'ai dit.
Voilà. Ouais. Et donc, en fait. Jacques Legros, qui aujourd'hui, je veux dire, voilà, Jacques, il a du caractère, il a une grande carrière, et en fait, donc, Jacques, il dit, je sais pas si je suis capable d'aller voir ce film, et on demanderait à des mômes de 12-13 ans de le regarder, ben, ça pose quand même question.
Mais je me suis fait gronder par Estelle, et donc,
oui, mais je peux pas gronder tous les élèves de France.
Non, mais tu as entièrement raison, hein. C'est un manque de courage de ma part, tout simplement. Et du coup, j'ai une obligation citoyenne, et si ce n'est aujourd'hui professionnelle, d'aller le voir.
Mais bien sûr.
Donc j'irai le voir.
Mais juste, il y a deux choses. D'abord, le ministre disait, attention, tous les profs ne sont pas encore prêts.
Exactement.
D'un point de vue émotionnel, etc., il y a des profs qui sont pas prêts aujourd'hui, parce que c'est encore relativement récent,
à
le voir,
concerne,
et encore moins qu'ils se sentent capables aujourd'hui de parce que c'est pas juste le diffuser, hein, quand on le diffuse dans une classe, ça veut dire ensuite expliquer, en débattre, etc.
Il y a quelques minutes, tout n'est pas bien.
Voilà, exactement. Et de se mettre dans cet état émotionnel avec les élèves, certains ne se sentent pas prêts. Et puis par ailleurs, C'est en France, un ministre n'a pas le droit de dire j'oblige les élèves à regarder ça.
Non, non, bien sûr.
Il y a des conseils qui font les programmes, etc. Il y a une forme de démocratie, mais heureusement, parce que ce serait très dangereux qu'un ministre ait le droit de dire je veux qu'il se passe ça dès demain dans les classes.
Oui.
Mais il peut mettre le film. Il peut mettre le film à disposition
J'espère. Et d'ailleurs, moi, ce que je t'ai dit, Estelle, c'est que on y va. Je vais le voir ce week-end. C'est ma première activité de ce week-end. J'y vais avec tous mes copains. On a envie de le voir, on a envie que ce film ait des entrées au cinéma. Et c'est primordial que les gens le voient à l'école. Je comprends que les profs, émotionnellement, ce soit dur pour eux. Mais la portée pédagogique d'un film comme ça, elle est au-delà de capital. Il faut que les gens, il faut que les élèves, il faut que les citoyens se rendent compte jusqu'où peut aller l'obscurantisme religieux. Parce qu'on a lutté tellement longtemps dans ce pays contre l'obscurantisme qu'on ne peut pas aujourd'hui cautionner qu'un professeur se fasse décapiter au nom de la religion. Mmh. Ou du blasphème, d'ailleurs, qui sont des lois que je chéris chaque jour, car je viens d'un milieu religieux. Et je viens d'un milieu religieux, moi, où encore le blasphème, aujourd'hui, on me le reproche. Et il n'est même pas question de blasphème, en fait. Il a montré des caricatures, je veux dire. C'est un besoin capital pour notre pays. Donc, ce film est d'utilité publique. J'espère que tous les rectorats vont le faire rentrer dans la norme de « Allez, venez, on regarde ça, on montre ça à nos élèves », comme on a pu me montrer, moi, la liste de Schindler, American History X. On m'a montré des films très durs quand j'étais au lycée.
Nuit brouillard, par exemple.
Exactement.
Moi, on était au collège, on a vu des films.
Pleurer pendant des heures. Mais derrière, c'est bien. On m'a montré des films sur la pédophilie quand j'étais au lycée pour me prévenir, pour me dire, American History X, qui est un film américain assez culte. American
Beauty. Ça n'a rien à voir. Oui.
J'ai vu American History X aussi, qui était horrible.
Ça n'a rien à voir.
En cours d'anglais, American Beauty, qui sont des films qui sensibilisent les jeunes à des situations qu'ils pourraient vivre et qui ne doivent pas rejeter. Et ça nous choque assez. Pour qu'on se dise
Mais Véronique
plus jamais.
Sur WhatsApp nous dit moi je suis prof, je suis enseignante et je ne veux pas aller voir ce film pour l'instant, trop douloureux.
Je comprends.
Pas d'obligation s'il vous plaît, je ne me sens pas encore capable de le traiter en classe.
Et pardon, moi quand je suis allée le voir, tout le monde pleurait dans la salle et je peux imaginer, et je ne suis pas prof, je peux imaginer en fait la détresse émotionnelle des profs en voyant ça. Les profs ont pas forcément envie d'être vus en train de pleurer devant leurs élèves. Et je pense que ça peut être c'est peut-être le frein à ça. C'est que et émotionnellement, je veux dire on ne ressort pas de ce film indemne, c'est absolument impossible. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi peut-être cette fragilité. On n'a pas forcément envie, quand on est prof, de montrer une certaine fragilité vis-à-vis des élèves. En tout cas, ça va continuer à faire débat, certainement, cette question sur le film L'Abandon, qui est encore en salle, évidemment, au cinéma. Le Morning RMC, comment bien réussir son vide-grenier? C'est un peu le week-end des vide-greniers et des brocantes, là. Vous êtes peut-être prévu, justement, de profiter de ce week-end de Pentecôte pour faire le tri dans votre maison et vous faire aussi un petit peu d'argent. Et Géraldine Demoré nous donne ses conseils pour bien réussir une brocante.
En ce moment, ce qui se vend le mieux, ça va être tout ce qui est vêtements de marque. Ça part, mais vraiment très, très vite. Vous avez aussi tout ce qui est jouets vintage, type Lego, Playmobil, les Barbie des années 80, 90, les consoles de jeux rétro.
Il faut qu'il y ait encore la tête et les deux jambes.
Oui, il faut que ce soit en bon état. Mais alors justement, attention, parce que si vous avez ce genre de jouets en bon état, renseignez-vous, parce que il y a certains jouets qui peuvent se vendre vraiment très cher, donc ce serait quand même dommage de les brader. Un peu plus étonnant, mais la vaisselle est aussi très recherchée en ce moment, alors en particulier la vaisselle, la porcelaine de marque. Alors pour maximiser vos chances, présentez bien vos articles, bien sûr, et puis mettez le prix. S'il n'y a pas de prix, généralement, les gens ne s'arrêtent pas. Et même si oui, on sait, la négo, ça fait partie du jeu, mais soyez pas trop gourmand, parce que si le prix de départ est trop élevé, là, c'est pareil, ça risque de faire fuir les acheteurs potentiels.
Qui aime les brocantes autour de cette table, Fred Hermel?
Moi, bien sûr.
Ah ouais.
Bien sûr.
Et vous achetez quoi en brocante?
Parfois des vieux livres. Je vois que là, il y a des postes de radio et tout ça. Je, en image pour ceux qui l'ont regardé à la télé, si je vois un jour, je vois un vieux poste de radio. J'aime beaucoup les lampes, donc ça m'est arrivé une fois dans une brocante un petit peu chic, mais c'était une lampe de mineur, une lampe de mineur qui avait été très bien rénovée et qui avait été mise comme une lampe et tout ça. Donc j'aime bien ce genre de choses. Oui. J'aime bien l'atmosphère et tout ça. Puis après, tu rêves toujours de tomber sur un Picasso inconnu.
Et d'être le seul à pas à l'avoir repéré.
Mais voilà, c'est pour ça. Mais oui, non, mais à chaque fois, je me dis. Oh, peut-être que j'ai tombé sur un truc.
J'adore aller en brocante. Ouais. Et marchander, bien sûr.
C'est surtout ça, toi.
Oui. Non, mais j'ai acheté plein de trucs.
J'adore. Ouais.
Une vieille balance de cuisine. Et, une
exactement,
lampe,
parce qu'il y a des gens qui.
Et des bouquins à 1 euro. Voilà.
Exactement.
Ouais, j'ai payé 1 euro. Ouais. C'est comme
Mais de vieux objets comme ça. Et surtout sur les assiettes. décoré tout ça de grand-mère, quoi. J'adore ça.
Ah ouais. Les assiettes années 60 avec les petites fleurs oranges, c'est mon rêve. Élise Goldfarb.
Moi, j'adore y aller pour trouver des trucs vintage. Et surtout, ce que j'achète, c'est des anciennes consoles. Genre la Game Boy Color. Je me suis acheté un Nokia 3310. Je me suis dit.
Par contre. Mais acheter la Switch 2, il y a tous les jeux des anciennes consoles.
Oui, je vais aussi l'acheter. Mais ce que j'aime, c'est avoir des objets vintage de collection chez moi. Par contre, ce que je supporte pas, c'est être la brocanteuse. Parce que je l'ai déjà fait. Mais les gens sont des gros crevards.
Mais
je vends des trucs trop stylés. Je le mets.
Genre ce suite, par exemple.
Iconique, excuse-moi, Dragon Ball Z.
J'ai eu plusieurs messages pour féliciter Elise, de gens qui nous regardent.
Bien sûr.
J'ai acheté en fripe.
Non, mais c'est vrai.
J'ai acheté en fripe, d'ailleurs. Limite une brocante. Non, mais les gens, ils vont te négocier des 50 centimes. Ça va, frérot? Tu peux mettre 50 centimes?
Non, pouvoir d'achat, Elise.
Ah, ça me saoule. Du coup, moi, en tant que meuf qui vend des trucs, je vends sur Vinted.
Oui, ou les gens marchandent aussi.
Ouais, mais je laisse
pas. Est-ce que vous pouvez porter cette chemise, machin?
Je réponds juste, non, dégage. Alors que dans la vraie vie. Dans la vraie vie, j'aurais envie de les. Dans la vraie vie, j'aurais envie de les monter en l'air.
Jacques Legros, vous faites les. Jacques Legros, vous pouvez pas faire les brocantes, vous.
Crevards, guègues.
C'est Élise, hein.
J'enrichis mon vocabulaire.
Bien sûr, mais de forme, de belle manière.
J'en ai fait des petites. Pas des brocantes.
Mais vous vendez.
Oui, voilà. Quand les enfants étaient petits, ils se faisaient un peu d'argent.
Mais vous vendiez vous-même. C'est-à-dire qu'on disait, il y a Jacques Legros, il est en train de vendre le t-shirt de ses gosses.
Il n'y avait pas les réseaux à l'époque, c'est bien.
Il y a Jacques Legros qui vend la vaisselle.
Il vend son argenterie.
Il vend les micros de TF1.
Qu'est-ce que tu veux que je...
Mais vous achetez en brocante, Jacques ?
Alors, une époque, oui, j'aimais bien. J'aimais bien les belles brocantes, comme ici à Paris, à Saint-Ouen. Quand je cherchais un meuble, par exemple, ou un objet de décoration.
Oui, bien sûr. Ça s'appelle un antiquaire, Jacques. Ça n'a rien à voir.
Il y a un peu les deux.
J'ai acheté un meuble à 8000 euros, en plus de Saint-Ouen.
Il m'a fait baisser de 50 centimes. Ils offrent la livraison.
C'est moi des crevards là-bas chez les antiquaires.